Dans cette présence de Dieu qui nous fait tant de bien, on va ouvrir sa parole. Je vais introduire ce message par quelques lectures. C'est le psaume 62 qui sera notre premier texte, le psaume 62. Et nous lirons les versets 2 et 3 pour commencer. Le psaume 62, verset 2, c'est un psaume de David. Hein. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie.
Amen.
De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Au verset 6, on lit encore. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu, Amen. Voilà, on va mémoriser ce premier texte, lire également dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 1 jusqu'au verset 4. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel, ils les suivaient, et ce rocher était Christ. Amen. Un troisième texte, et vous allez bien sûr vous apercevoir qu'il y a un dénominateur commun dans toutes ces références, dans le Deutéronome, au chapitre 32. Et à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, Deutéronome 32, verset 10, il, c'est l'Éternel, c'est Dieu, c'est l'Éternel. L'Éternel l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Et on va arrêter là notre lecture, essayons de mémoriser ces quelques versets. Et pour terminer, un verset très court dans le Cantique des Cantiques, le Cantique des Cantiques, le chapitre 2, et le verset 14. Vous savez que le livre du Cantique des Cantiques nous dépeint une relation d'amour sublime entre le bien-aimé qui est un type de Jésus et la bien-aimée qui représente l'Église. L'Église dans le Nouveau Testament est clairement présentée comme l'épouse de l'agneau. Là, on est dans une période de fiançailles, mais il y aura les noces de l'agneau. Eh bien, ici, au verset 14, le bien-aimé parle à sa bien-aimée en ces termes. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure agréable. Amen. En fait, ça va être très très simple ce soir. Mon propos va s'articuler autour d'une comparaison, d'une image que l'on trouve dans toutes les lectures que nous venons de faire ensemble, le rocher. Le rocher. Vous savez que pour se faire connaître à nous, Dieu dans l'Ancien Testament et Jésus dans le Nouveau Testament, eh bien, ont utilisé des comparaisons. Par exemple, Jésus dira « Je suis le pain de vie ». Dans l'Ancien Testament, Dieu se présente, par exemple, comme la lumière, l'Éternel est ma lumière. Il se présente comme le bouclier, l'Éternel est mon bouclier. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir sur cette comparaison avec le rocher. L'apôtre Paul dit clairement dans les Corinthiens que pendant les 40 années dans le désert où Israël était là en errance, il y a un mystérieux rocher qui les suivait. Et clairement, Paul va dire que ce rocher était Christ. Et pendant 40 ans dans le désert, ce peuple a survécu en particulier parce que de ce rocher, on va le voir tout à l'heure, a jailli de l'eau pour abreuver le peuple, mais aussi le bétail, que le Seigneur soit béni. Il y a des textes nombreux qui confirment que le rocher est une image qui véhicule un enseignement biblique très utile pour notre foi et qui va permettre aux croyants de vivre sa vie avec le Seigneur dans une pleine dimension. Quand le bien-aimé parle à sa colombe, eh bien, il lui dit « Tu te tiens dans les fentes du rocher, dans les fissures du rocher. » Je crois, frères et sœurs, que la volonté de Dieu pour ses enfants, c'est que nous vivions notre foi dans les fentes du rocher. Le rocher de notre salut, c'est une position qui nous est destinée. Jésus, clairement, dans Jean 15, va dire « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Si vous demeurez en moi, oui. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Demeurez dans le rocher. Demeurez, coûte que coûte, malgré tous les facteurs de digression, de dérivation qui pourraient intervenir pour nous sortir de cette position, tout mettre en œuvre pour demeurer dans les fentes du rocher. Si j'ai un encouragement à adresser à quelqu'un ce soir, fais tous tes efforts pour demeurer dans le rocher.
Amen.
Ce ne sera pas toujours facile. Tu seras parfois la cible de la conjugaison de plusieurs épreuves, de plusieurs facteurs qui parfois t'éparoucheront, mais par la foi et sous l'encouragement des Saintes Écritures, demeure dans les fentes du rocher. C'est là que tu vas être pleinement béni. Ce rocher qui préfigure le Christ, ce rocher est fendu. Il y a plusieurs fissures, plusieurs fentes. Et c'est de ces fissures que s'expriment les grâces dont il va être question tout à l'heure. Ce rocher est fendu. Il ne l'était pas à l'origine. Il l'est devenu parce qu'il a été frappé. Clairement, le psaume 78 dit, voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Psaume 78, le verset 20. Je crois que le socle et le fondement de notre foi, notre marche chrétienne, notre service, notre piété et notre espérance, c'est le rocher frappé. Et parce qu'il a été frappé, il a été fendu. Mais de ses fentes jaillissent des bénédictions qui viennent combler nos vies, pallier à nos faiblesses, transformer les êtres fragiles que nous sommes naturellement en être plus que vainqueurs. Car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est la position dans laquelle nous sommes invités à demeurer. Que la conscience du prix payé pour que nous soyons enfants de Dieu soit sans cesse renforcée, rafraîchie et replacée au centre de notre marche quotidienne. Je ne sais pas vous, mais quelquefois, moi, sur mon GPS, il y a un petit mot « recentré ». Et hop là, ça me recentre, recentré. Alors, je ne sais pas si sur ton petit écran s'affiche ce petit conseil. Recentre tes pensées, recentre tes raisonnements. Recentre, parce que si l'œuvre de Jésus-Christ au Golgotha devient périphérique, alors il est nécessaire de le remettre au centre.
Amen.
Parce que de là vont jaillir des bénédictions qui vont bénir ta vie, qui vont t'apporter au plus profond de ton être un bienfait de la part du Seigneur. Le rocher frappé, vous savez, ce fameux soir, après la crucifixion du Sauveur. Et alors qu'il est ressuscité, mais les disciples ne le savent pas encore. Ils sont là, pétrifiés de peur, à cause des juifs extrémistes religieux. Leur maison est barricadée, verrouillée. Et dans la soirée, la Bible nous dit, Jésus va le ressusciter. Jésus là. Seigneur, tu es là aussi ce soir. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Parmi nous. Gloire à Dieu. Jésus vint. Il les salue. Que la paix soit avec vous. Et puis il leur montre les fentes, les blessures. Il leur montre ses mains. Et sur ses mains, il voit une stigmate, une blessure. Il leur montre une beauté percée par le javelot romain. Et ils peuvent aussi voir sur son front les traces profondes de la couronne d'épines. Ils ne peuvent pas ne pas remarquer à ses pieds les blessures, les clous. Il leur montre ses marques. Il ne leur fait pas une théologie compliquée ou bien une énumération de lois moralisatrices. Il leur montre les fentes. C'est un message bien plus puissant que toutes les thèses et toutes les explications cérébrales et intellectuelles. Il leur montre les fentes. d'une façon spirituelle, je prie pour que quelqu'un fixe ses regards sur les blessures du Seigneur ce soir. Il a été frappé pour toi. Il l'a accepté, il l'a voulu et il l'a fait. Son père l'a frappé et des fentes du rocher frappé jaillissent depuis 2000 ans. 2000 ans! Des bénédictions incomparables, irremplaçables, d'un prix inestimable, que le Seigneur soit béni. Alors, ils sont transformés. Ces disciples, tout à l'heure, qui tremblaient, ils étaient tétanisés, blêmes, ils sont transformés, il est vivant. Ça les libère de l'emprise, la crainte. Ils sont restaurés, relevés. Ils courent l'annoncer à Thomas. Thomas, n'était pas à la réunion, hein? Dommage. Il est vivant, nous l'avons vu. Et je ne sais pas quel superlatif encore ils ont prononcé dans leur envolée émotionnelle aussi. Hein. Et Thomas, lui, il est resté comme un iceberg. Chaud comme un bloc de glace. Et il leur a laissé parler. Hein, il a laissé parler. Il dit, moi, si je ne mets pas mon doigt dans les fentes, dans les blessures, si je ne mets pas ma main dans son côté, vous laissez, ne croirez pas. Et la semaine suivante, il y avait réunion. Mardi 18h30. Vous savez, une réunion, c'est pas... Moi, je n'ai jamais trop aimé ce mot « réunion ». D'ailleurs, on a évité avec nos filles, quand elles étaient petites, de dire « Allez les filles, on va à la réunion ». Non. Mais on a toujours veillé, parce que le vocabulaire, c'est important. Alors, présenter les rencontres d'église comme une fête, un événement, une rencontre avec Jésus. C'est ça l'important. C'est que la réunion, c'est surtout un rendez-vous de cœur à cœur avec le rocher frappé. Et Thomas était à la réunion ce soir-là. Et Jésus, comme précédemment, j'imagine la gêne de Thomas et Joël. Si la réincarnation avait existé, il se serait réincarné en coccinelle, je ne sais pas. Il aurait voulu disparaître sous la moquette s'il y en avait une, je ne sais pas. Mais... En tout cas, j'imagine qu'il a dû se dire, pourvu qu'il ne me remarque pas. Et c'est justement lui que Jésus a remarqué et mis en évidence ses regards rassurants, parce que le regard de Jésus n'est pas culpabilisant. Il est chargé. Vous savez, un regard, ça parle, un regard. Donc, et il s'adresse aux disciples. Thomas, avance ton doigt. Regarde les fentes du rocher, les meurtrissures. Mes amis, la Bible nous parle des bénédictions qui découlent des meurtrissures. Ésaïe n'a-t-il pas dit dans ses meurtrissures,
amen,
nous sommes guéris, guéris physiquement, guéris psychologiquement, guéris dans notre conscience, notre subconscient, guéris spirituellement. Il y a la guérison dans les meurtrissures de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. C'est là que Dieu veut nous conduire. D'ailleurs, on l'a lu ensemble dans le Deutéronome, lorsque il est fait le rappel historique des événements, l'Éternel a trouvé le peuple d'Israël dans le désert. D'ailleurs, je pense que notre histoire d'enfant de Dieu, très souvent, a commencé dans un désert. Je ne sais pas vous, mais moi, avec mes 16 ans et demi, j'étais dans le désert. Je vous le dis. J'étais en pleine crise d'adolescence, je ne voyais pas à quoi je servais. Je ne voyais pas à mon existence. J'avais goût à rien. Je faisais. Je balançais mon cartable le soir dans un coin de ma chambre, je m'arrêtais sur lui. J'attendais que maman appelle pour le souper. J'avais goût à rien, le ressort était cassé, c'était le désert. Et il m'a trouvé dans mon désert. Amen. Il t'a trouvé toi aussi dans ton désert. Moi, je me souviens de maman, c'était un désert. Il est dit aux effroyables hurlements. Mais ma mère voulait se suicider. Elle ne voulait plus vivre. Elle s'enfermait dans sa chambre pendant 2 jours, 3 jours. Elle ne se lavait pas. Elle ne s'occupait pas de ses enfants. Papa faisait le maximum pour prendre soin de son épouse. Mais le mal était trop profond. Elle était rongée de l'intérieur par une détresse innommable, d'une violence incroyable. J'ai vu parfois ma mère dans des attitudes à se flageller tellement elle était désespérée. Une femme désespérée. Et au mois de mai 1971, Dieu l'a trouvée dans son désert. Ma grand-mère, croyante authentique, l'invite. Viens, ma fille, un dimanche matin. Ma mère dit, maman, j'ai essayé plein de choses, ça va pas d'envie. Allez, je vais essayer ça aussi. Hein? Elle a suivi sa maman. Et quand elle est rentrée du culte, son premier culte, vers 13h30 à la maison, nous avions une nouvelle maman. Une femme métamorphosée. Son visage était un petit soleil. On s'attendait à tout sauf à ça. Et la première chose qu'elle nous a dit quand on rentre à la maison, c'est un visage rayonnant. Elle a dit, ça y est, je l'ai trouvé. Je sais qu'il m'aime. Je sais que ma vie a du prix à ses yeux. C'était Jésus. Alors nous, ça a été un choc incroyable. Moi, j'ai dit à mes deux frangines, on ne va pas se réjouir trop vite. C'est trop rapide, ça. C'est trop beau, c'est trop. Ça ne va pas durer. Vous voyez la foi que j'avais. Sauf que dimanche d'après, elle est retournée. Le troisième dimanche, au quatrième dimanche, elle avait mémorisé les cantiques des aides de la foi. Elle a commencé à chanter des cantiques à la maison. Je n'avais jamais entendu maman chanter à la maison, et encore moins chanter des cantiques. De Dieu, l'amour éternel, à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel, par l'amour qui me pénètre. Des cantiques merveilleux, je n'avais jamais entendu. Dieu était en train de la sortir de son désert. Dimanche après dimanche, Dieu l'a sorti de son désert. Si quelqu'un est dans un désert, Dieu veut te sortir de ton désert, et immédiatement, après avoir trouvé son peuple dans le désert, immédiatement, l'Éternel le conduit au rocher. Immédiatement. C'est là le lieu de la bénédiction. Et la Bible nous enseigne que de ce rocher, de ces fentes, eh bien, se sont exprimées 3 bénédictions. L'eau a jailli, le miel a coulé et l'huile a coulé également. 3 bénédictions. Mais des bénédictions qui transforment le quotidien. C'est extra. Moi, je vous dis une chose. Si nous avons l'eau, le miel et l'huile, nous sommes comblés. L'eau nous parle de la grâce de Dieu, le miel nous parle de la parole de Dieu, et l'huile nous parle de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. La grâce, la parole, le Saint-Esprit. Si mon existence est placée sous la gouvernance et sous l'influence de ces 3 bénédictions, mais je suis comblé. Je n'ai pas besoin de carottes inconnu, je n'ai pas besoin d'un néo-évangile, je n'ai pas besoin d'un évangile repris, corrigé, réadapté au monde du jour, je n'ai pas besoin parce que dans la fente du rocher, dans le Christ qui a accepté de boire la coupe jusqu'à la lie, jusqu'à ce formidable cri de victoire, tout est accompli. Dans l'œuvre de Jésus frappée pour moi, il y a tout ce qu'il faut pour combler ma vie dans tous ses aspects physiques, matériels, sentimental, spirituel, dans tous les aspects qui composent ton existence, tu seras comblé si tu es dans les fentes du rocher et si tu y demeures de Christ. Et tu vas bénéficier de la grâce. La grâce, gloire à Dieu. Il a fait, c'est quand même cet effort, hein. Il a frappé le rocher, des eaux ont coulé, des torrents se sont répandus. Hein. Ce n'est pas une grâce au compte-goutte, c'est un torrent de grâce. Et combien il est beau et juste ce cantique, ce vieux cantique de la croix. La grâce coule, vous voyez. Mais la grâce de Dieu n'est pas une bénédiction nécessaire uniquement pour ma conversion et que je prenne le baptême et puis tout est fini. Non, non, non. Mais la grâce de Dieu, j'ai besoin de la grâce de Dieu tous les jours. Jusqu'au dernier souffle de ma vie terrestre, je vais avoir besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Tout ce que je peux vivre et accomplir pour le Seigneur ne se fera que par sa grâce et dans sa grâce. Que Dieu soit béni. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, homme de Dieu, avisé, inspiré et mature, va dire que personne ne se prive de la grâce qui est en Jésus-Christ. Ouais, ouais, parce qu'il y en a un qui aimerait avec ses ruses, ah, s'il pouvait réussir à te priver de la grâce de Dieu, à infiltrer tes pensées par ses mensonges, par ses culpabilités, par la culpabilité. Je disais, il y a 9 jours en arrière, le dimanche 5 juillet, que le Seigneur Jésus est venu pour les exclus, pour les accueillir, et qu'il n'y a qu'une personne qui peut empêcher d'entrer dans la grâce, c'est soi-même. C'est soi-même. Ne permets pas au père du mensonge de te convaincre de ces mensonges selon lesquels la grâce de Dieu ne serait pas pour toi. Que personne ne se prive de la grâce qui est en Jésus-Christ, parce que la grâce qui coule des fentes du rocher, elle concerne tout individu, toute situation, toute nature de problématique. Il n'y a aucun cas. On a souvent tendance à penser que notre cas est tellement exceptionnel, mais même s'il est exceptionnel, la grâce de Dieu a le pouvoir d'intervenir. Un jour, Dieu dira clairement à Paul, ma grâce te suffit. Amen. La grâce qui coule du rocher fendu, elle me suffit.
Amen.
Alléluia. Elle n'a pas besoin d'adjonction, d'un complément, de non, 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 elle me suffit, j'ai tout pleinement dans la grâce qui coule des fentes du rocher. Alors, que quelqu'un ce soir le croit et en reçoit le bénéfice.
Amen.
Amen. Amen. Que ces jaillissements de grâce divine teignent ton corps malade et le guérissent, ton âme fragile et la fortifie. Alléluia. Que cette grâce merveilleuse visite tes raisonnements infondés et chasse les mauvais modes de pensée pour les remplacer par la pensée de Christ qui qui est pensée de victoire. Alléluia. Pensée de la foi. Alléluia. La pensée de Christ, c'est lorsqu'il s'adresse à Jairus, ne crains point, crois seulement. Alléluia. Eh bien, que cette grâce qui coule, sans interruption, te visite ce soir. Dans ton problème personnel précis, celui que tu es en train d'essayer de gérer péniblement, oh, que la grâce de Dieu te visite. Cette grâce qui jaillit de la fente du rocher. Et puis, coule le miel. Vous le savez, hein, le miel est une des images qui parle, un des symboles de la parole de Dieu. Il y a le pain, il y a le marteau, il y a l'épée à deux tranchants, et il y a le miel, il y a le miel. Et le miel, vous voyez la parole de Dieu, moi je crois qu'elle doit aussi être comme du miel. Le miel agit en deux temps. L'action immédiate, sa douceur. Sa saveur. Il y en a d'avant. Ah, c'est du châtaignier. Donc, c'est le premier impact, vous voyez. Il est gustatif. J'aimerais, moi, je prends ce témoignage. Quand je suis sur une chaise et que j'écoute la parole de Dieu, je vous assure, pour moi, elle a toujours cette saveur du miel. Je me régale. Je me régale. Il faut que la parole de Dieu garde pour ton âme sa faculté agréable, de douceur, le miel. Ce n'est pas d'être mielleux, ça, ce n'est pas bon. Mais il faut que la parole de Dieu me procure un plaisir, oui ou non, que ça soit agréable. Moi, je veux jusqu'au bout écouter. En mangeant et en buvant avec délectation, bonne prédication qui me fait du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est la première phase. Un impact agréable. Après, on l'assimile. On l'ingurgite. Il y a la deuxième phase. Le miel que j'ai incorporé, je vais lui permettre de développer dans mon organisme des actions sanitaires d'une grande importance. Par exemple, le miel va favoriser la cicatrisation. Je parle à tous ces bien-aimés qui, tout en étant des enfants de Dieu authentiques, véhicule pendant des années des blessures qui n'arrivent pas à cicatriser. Alors, c'est quoi la solution? C'est le miel. Hein? Quand j'étais gosse, mes parents me donnaient de l'huile de foie de rhubarbe, je n'avais pas ça. Donc, prends plutôt le miel de la parole de Dieu. C'est sûr, c'est le miel, parce que la parole de Dieu a cette vertu guérissante. Il leur envoya sa parole et les guérit. Je faisais une visite tout à l'heure et la sœur me disait, en me parlant de ses souffrances intérieures, alors que j'étais vraiment très très mal, j'avais quand même ma Bible ouverte et mes yeux se portent sur un verset. Ce verset me communique la foi et je suis guéri instantanément. Je me lève et je suis capable de faire des gestes impossibles à faire. J'étais bloqué de tous les côtés. Instantanément, une parole, un rayon de miel divin que j'ai incorporé a suscité la foi. Oui, parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. La parole de Christ. Gloire à Dieu. Tant de témoignages confirment les bénéfices que la parole de Dieu communique à ceux qui croient. Le miel, ça favorise la cicatrisation. Le miel, ça augmente sensiblement les performances athlétiques. Alors, si je transpose au plan spirituel, je vais vous dire une chose. Je suis parfois humilié par les performances de ma foi. Parce que je la trouve, Seigneur, j'aimerais que ma foi soit capable de performances qui vont susciter de la part du Seigneur une satisfaction telle qu'il l'a exprimée. Oh femme, ta foi est grande. J'aimerais que le Seigneur me dise, remarque, ta foi est grande. Alors, comment faire? Il faut manger du miel. C'est Charles Spurgeon qui, depuis des mois et des mois, priait, Seigneur, augmente ma foi, augmente ma foi, silence. Augmente ma foi, silence. Augmente ma foi. Et un jour, une pensée très claire, lis ma parole. Et il s'est mis à lire la parole de Dieu, mais alors avec une faim, une recherche, une motivation, et il s'est aperçu que son ministère engendrait des fruits, des résultats, un impact sur les cœurs des auditeurs qu'il ne voyait pas s'exprimer avant cela. Alors, on a besoin d'avoir une foi de haute performance, hein, parce que les temps sont des temps de défi. Hein. Ah oui, parce que là, vous savez, on est dans des temps où l'adversaire qui sait que son heure approche déploie toutes ses énergies et on voit des déferlantes, carrément des déferlantes ténébreuses qui veulent submerger notre population. Comment faire? Il faut tout mettre en œuvre. Que notre foi soit capable de performance. Je l'ai reçu avec des collègues de l'AEP il y a trois jours, la photo d'un pasteur qui, en Inde, a bien d'être emprisonné parce qu'il est pasteur. Ce n'est pas la première fois, il avait reçu plusieurs fois des traitements de tabassage, etc. Il a été emprisonné, emballonné. Et d'aller à la gendarmerie pour essayer de démêler la chose. Je parlais chez lui à qui, au Népal, nos employés de l'AEP ont organisé une réunion au bas de la montagne dans une grande maison de paysans, là, et ils ont été versés en même temps une et deux fois que des maisons perchées sur les hauteurs, les jeunes hommes portaient des vieillards ou des mamies. Et ils allaient à la réunion, à pied. Et après, il fallait les remonter. Il y a des témoignages comme cela de performances spirituelles dans le domaine du zèle, de la consécration, de la persévérance, qui ne sont pas rationnelles. Ça dépasse l'entendement. C'est miraculeux, c'est divin, ça vient du miel. Amen. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous. Le miel demeure en vous. Amen. Gloire à Dieu. Hein. Voilà. Et puis je termine avec l'huile, bien sûr. Que pourrions-nous faire sans l'assistance merveilleuse du Saint-Esprit? Regardez les disciples avant la Pentecôte. Leur fragilité, leur promptitude à défaillir, à fuir, puis regardez-les au sortir de la chambre haute. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et ça les transforme. Ils ne craignent plus rien, plus personne. Ils ont la crainte de l'Éternel, simplement. Et rien ne les perturbe. Aucune maltraitance physique, aucune menace verbale, aucune persécution, même des actes extrêmes tels que la décapitation de Jacques, la lapidation d'Étienne, n'a pas entamé l'assurance, le zèle de ces premiers chrétiens. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, c'est l'huile. Et vous savez que l'huile coule toujours ? Oui, oui. Les fentes du rocher, l'huile coule toujours. Et moi, je ne veux pas être un pentecôtiste historique. En disant, oui, en 1800 et quelques, j'ai été baptisé. Non, non. Je vais être un pentecôtiste d'aujourd'hui. Il y a un pasteur, ça fait longtemps ça. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que j'aurais dû peut-être. Qui avait parfois l'habitude de téléphoner à son pasteur stagiaire, mon jeune, à 6h du matin. Et pour une question, ça va, tu as parlé en langue là ce matin ? À 6h du matin. C'était quelque chose d'essentiel, la plénitude du Saint-Esprit, pour les premiers chrétiens. C'était, et ça doit être aujourd'hui encore, un élément essentiel d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, je sais très bien que, en divers lieux, il y a eu après, bon, parce que les émotions humaines font que, parfois, certains se sont laissés aller à des comportements manquant de sagesse. C'est vrai, c'est vrai. On pourrait citer les exemples. Mais ces exemples-là, qui sont simplement la preuve d'une immaturité spirituelle, ne doivent pas nous empêcher, nous, de venir dans les fentes du rocher.
Amen.
Pour sucer et nous imprimer de l'huile du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Dans tes rencontres matinales avec le Seigneur, dans tes rencontres en soirée, en fin de journée avec le Seigneur, place-toi dans les fonds. Le matin, une longue journée à venir, imprègne-toi, fortifie-toi dans la grâce. Prends un bon rayon de miel des Saintes Écritures et entre dans ce baptême dans le Saint-Esprit, parle en langue, sois renouvelé, prends une demi-heure, trois quarts d'heure intense où Dieu va te visiter et tu vas aller affronter ton planning du jour avec cet équipement surnaturel, gloire à Dieu. Et dès qu'une situation va se présenter, la sagesse de Dieu t'éclairera, tu sauras gérer l'imprévu, tu sauras passer toute cette journée et le soir, et encore un temps, dans les fentes du rocher. Bénis-le, adore-le, alléluia, et peut-être dépose à ses pieds quelques contrariétés qui auraient pu survenir. Tu vas bien dormir, je t'assure, tu vas dormir en paix. Je me couche et je m'endors en paix. Le psalmiste, le plus bel secret, il est où ? C'est que nous demeurons dans les fentes du rocher. C'est là le lieu de la bénédiction. Que le Seigneur nous encourage et nous bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux demander à Jonathan, si tu peux terminer par la prière ?